Nous recevons ce matin dans le grand entretien deux invités en pointe dans le combat pour la préservation de la biodiversité. Intervenez, amis auditeurs. Vous avez la parole dans une dizaine de minutes au 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux et l'application France Inter. Isabelle Autissier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la présidente du WWF France et je vous remercie d'être au micro d'Inter ce matin. Avec nous également Anne-Larry Gaudry, bonjour.
Bonjour.
Et merci également d'être là. Vous êtes la secrétaire exécutive de l'IPBES. L'IPBES est la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques que l'on compare souvent au groupe d'experts sur le climat, le GIEC. L'IPBES, en quelques mots, 130 pays, 145 experts qui pendant 3 ans ont produit un rapport colossal de 1800 pages. C'est ce rapport qui a été discuté la semaine dernière à Paris et qui sera publié tout à l'heure, je n'en ai pas le détail, c'est sous embargo,
voilà,
comme on dit, voilà, jusqu'à 1h de l'après-midi. Dites-nous en tout cas quelle en sera la tonalité de ce rapport et de vos échanges également ces derniers jours. C'était alarmant ou c'est d'ores et déjà dramatique ?
Alors c'est alarmant, par contre en même temps on ne veut pas décourager les gens, donc effectivement on donne ce constat, on dit que la nature est en train d'être détériorée de manière tout à fait importante, à une échelle, à une ampleur qui est sans précédent dans l'histoire de l'humanité. On en connaît les grandes causes, on en connaît également les conséquences, en particulier sur notre capacité à pouvoir survivre à long terme sur cette planète. Mais on en connaît également les solutions et c'est donc à chacun de se saisir de ce problème pour pouvoir améliorer les choses.
On va décliner chacun des grands points que vous venez de décrire. Un mot quand même de définition. Quand on dit biodiversité, on parle de quoi ? C'est la nature, tout simplement ?
C'est la nature, tout simplement. C'est la richesse du monde vivant, les plantes, les animaux, tout ce qui constitue la vie sur Terre et qui nous permet à nous, êtres humains, de pouvoir subsister, nous nourrir et vivre de manière...
La nature, la belle, la grande nature.
Exactement.
Isabelle Autissier, concrètement, cette destruction de la nature qui est alarmante, donnez-nous une idée de ce qui est en train de se passer. On parle d'une sixième extinction de masse.
Oui, on parle de ça.
La cinquième, c'était les dinosaures.
Oui, voilà. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les espèces se sont toujours remplacées sur la planète, mais aujourd'hui, on est dans un rythme qui est à peu près 100 fois supérieur à une moyenne. Si on prend la surface de la Terre, les 3/4 de la Terre et les 2/3 des océans sont gravement impactés par l'activité humaine. Donc, on est dans une échelle absolument planétaire. Il n'y a pas un endroit, en fait, sur cette planète qui n'est pas impacté par l'activité des hommes, et en général, malheureusement, dans le mauvais sens. Donc, voilà, il est peut-être encore temps de se réveiller, mais il faut vraiment se réveiller.
Ça veut dire quoi quand on parle d'extinction ? Ça veut dire que des espèces animales, l'eau, les sols, les plantes, c'est ça ce qui est en train d'être fragilisé. Alors, peut-être pas encore de manière irrémédiable, en tout cas pour certains aspects, mais c'est ça dont on parle.
C'est exactement ça dont on parle. Le rapport conclut qu'environ 1 million d'espèces, de plantes et d'animaux sont en train de disparaître.
Sur 8 millions.
Sur à peu près 8 millions, voilà. Donc c'est vraiment une destruction sans précédent de notre nature, sachant qu'il faut des millions et des millions d'années pour que de nouvelles espèces, de manière naturelle, puissent apparaître sur Terre.
J'ai une question qui va peut-être vous sembler caricaturale, ça c'est l'hypothèse positive, sans doute idiote, c'est sans doute plus réaliste. Les dinosaures dont parlait Alexandra à l'instant ont disparu et ça n'a pas empêché l'humanité de prospérer. En quoi ce qui se joue aujourd'hui serait plus grave ?
Eh bien, parce que la disparition, en fait, de l'ensemble du monde vivant, c'est quelque chose qui affecte la vie de nous-mêmes sur Terre. À l'époque où il y avait les dinosaures, il n'y avait pas les êtres humains. Donc, nous, ce qui nous préoccupe, c'est la vie des êtres humains sur Terre. Et donc, la disparition de toutes nos ressources naturelles met vraiment en danger notre capacité à avoir une qualité de vie aussi qui est importante. On est en train d'essayer de remplacer de manière artificielle la vie sur Terre, par exemple, maintenant que nos pollinisateurs disparaissent, toutes les abeilles qui pollinisent, qui nous permettent d'avoir notre nourriture, on est en train de concevoir des mini-drones pour pouvoir polliniser les fleurs, par exemple. c'est possible, peut-être. Est-ce que c'est vraiment ça ce qu'on veut pour notre futur, sur notre planète? Il y a aussi des questions de valeurs qui sont très importantes auxquelles il faut aussi réfléchir au-delà des questions matérielles.
Isabelle Autissier.
Oui, faut imaginer un peu la biodiversité, un peu comme un grand Mikado. Vous savez, on jouait à ça quand on était petit, là, les empilements de petites baguettes. Bah, à force d'enlever des baguettes en bas, vous faites un peu s'effondrer le système parce que derrière la disparition potentiel d'un million d'espèces, en fait, c'est toute la nature qui est impactée parce que ces espèces, elles sont la proie de certaines, elles sont les prédateurs d'autres, elles vont réguler d'autres populations. Donc, ça veut dire qu'on déstabilise absolument l'ensemble du système. Et pour vous montrer l'importance, je vais vous prendre un seul exemple. La moitié de l'oxygène que vous respirez aujourd'hui vient du plancton marin. L'espace océanique est appauvri en plancton, bah, faudra apprendre à respirer une fois sur deux. Ça va être un peu compliqué quand même.
Oui, effectivement.
Vous dites que l'homme est responsable de cette dégradation. Qui est responsable vraiment? Est-ce que ce sont nous les particuliers? Est-ce que ce sont les entreprises? Est-ce que ce sont les États? Est-ce qu'on peut nommer, pour trouver des solutions, déjà identifier les responsables?
Anne-Larry Gaudry.
Alors, ce qui est important, c'est pour la biodiversité, c'est vraiment de comprendre qu'on est tous ensemble. C'est-à-dire que l'idée, ça n'est pas de dire voilà, ici il y a les bons, ici il y a les méchants, mais on fait tous partie en fait d'un même système, et c'est à nous tous de trouver une solution à notre niveau. Donc, en tant que citoyen, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour préserver la biodiversité, ne serait-ce que de réfléchir à ce qu'on met dans notre assiette, la manière dont on se nourrit. Est-ce que ce qu'on met dans notre assiette provient de pays lointains qui ont un coût important au niveau environnemental? Est-ce qu'on essaie de moins gaspiller, de manger un tout petit peu moins de viande, de manger des produits locaux, d'essayer de retrouver nos variétés traditionnelles,
des savoir-faire qui étaient possibles avant et qui étaient là avant l'invention de l'avion et le fait de manger un fruit qui a fait le tour de la Terre.
Voilà, exactement. Donc c'est aux citoyens à trouver des solutions. Après, c'est au gouvernement à encadrer. Puis nous aussi, au niveau intergouvernemental, au niveau des Nations Unies, à niveau international, à essayer aussi de donner un peu des grandes pistes, des directions. Mais chacun peut vraiment agir à son niveau et aussi... dès qu'on commence à agir aussi, on voit immédiatement et de manière très rapide un effet. Et contrairement au climat où il y a une grande inertie et où on est vraiment déjà maintenant condamné à 2, peut-être même 3 degrés. Et si on commence à agir maintenant, on verra des effets positifs dans 10, 20 ou 30 ans. Alors que la biodiversité, ça commence tout de suite. Dès qu'on commence à conserver, on a immédiatement la nature qui reprend ses droits, en fait.
Et Isabelle Autissier, sur le climat, on a une prise de conscience hein, quand même. Même si il y a Donald Trump qui contrecarre tout ça, mais il y a une prise de conscience sur la planète. Est-ce que pour la biodiversité, elle est déjà là, la prise de conscience, ou pas?
Alors, pas encore et pas assez, et c'est un des sens du combat du WWF, de faire monter, vous savez, on a une très grande conférence l'année prochaine en Chine sur ce sujet-là, et nous on voudrait que ce soit une conférence de la taille de ce qu'a été la COP21 pour le climat, c'est-à-dire qu'il y ait des engagements non seulement des États, ça on en a besoin, on a besoin de plus de régulation, mais aussi des entreprises, parce qu'elles ont un rôle crucial quand même aujourd'hui dans nos économies, et puis des citoyens, des collectivités, etc. Donc on voudrait que ce soit aussi fort que ça, parce que le danger, il est de la même ampleur. Et d'ailleurs, souvent, on a des croisements. Le réchauffement climatique met à mal la biodiversité, mais la mise à mal de la biodiversité empêche, par exemple, le stockage du carbone dans les arbres quand vous détruisez de la forêt. Donc, les deux se répondent complètement.
La COP21 à Paris a été considérée comme un tournant sur les questions justement du réchauffement. L'accord de Paris était universel. Il a été âprement négocié, mais il a permis au moins au monde, à un moment, de parler d'une seule voix et d'être d'accord sur ce sujet. Là, la suite a été plus compliquée, mais ça a été un moment fondateur. Est-ce que la question de la biodiversité a déjà eu ce moment fondateur ou il est encore devant elle?
Alors, le moment fondateur pour
la
biodiversité,
c'est cette semaine-là qui vient de se passer.
Là, c'est disons un des premiers grands jalons qui va vraiment aboutir à la COP15. Donc, la COP15 pour la Convention biodiversité sera en Chine en 2020, et c'est vraiment là qu'on attend un grand élan international avec des prises de décision qui affecteront vraiment de manière positive la biodiversité, avec une conversation qui va changer, avec des comportements qui vont changer. échanger sur la biodiversité. Donc nous, à l'IBES, on a maintenant établi les fondations scientifiques, on va dire, de ce débat. Et on donne maintenant ce rapport aux décideurs et à tous les acteurs du monde entier pour qu'ils puissent maintenant avoir une conversation informée pour nous emmener à COP15 où tous les pays vont prendre un accord qu'on espère vraiment très important pour que la biodiversité soit, et c'est ce qu'on dit toujours, au même niveau que le climat, au niveau de l'agenda international. C'est vraiment ce qu'on veut accomplir.
Et qu'est-ce qui serait un objectif raisonnable, atteignable, qui fasse vraiment la différence?
Alors nous, au WWF, ce qu'on propose, c'est que l'objectif, ce soit zéro perte nette de biodiversité en 2030. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on essaye de maintenir, hein, on est aujourd'hui sur une courbe qui est plutôt vers l'effondrement, on essaierait à minima déjà de stabiliser, ce qui veut dire, si on veut stabiliser, comme d'un côté on continue quand même à détruire, que on est aussi des endroits où on reprenne de la biodiversité, la restauration des terres, la reforestation, le fait de remettre en service, entre guillemets, des fleuves propres pour que, par exemple, les animaux aquatiques puissent survivre. Enfin voilà, il faudrait vraiment qu'il y ait une montée en puissance du fait que la nature puisse reprendre ses droits sur cette planète pour que ça marche. Mmh.
Mais alors comment est-ce que ça peut marcher? Regardez le Brésil, par exemple, qui abrite plus de la moitié de la biodiversité mondiale, mais qui a des réserves écologiques majeures menacées parce que des lobbies ont trouvé en Jair Bolsonaro un allié de poids. Que peut faire la communauté internationale?
La communauté internationale, elle peut faire beaucoup de choses. Par exemple, le Brésil fait partie de l'IBES, il fait partie de la Convention sur la diversité biologique. On entend parler de cette déforestation au Brésil, mais il y a quand même une vitesse de déforestation qui diminue. Donc le Brésil est vraiment en train d'essayer de faire des efforts pour diminuer cette destruction de sa forêt. Donc même là aussi, il y a quelques progrès.
Bon, évidemment, Isabelle Autissier aimerait y croire. Oui, d'ici là, j'ai pas l'impression que vous y croyez vraiment. Dites-nous.
Mais on parle quand même de déforestation malgré tout. Mais la vitesse diminue.
Parce que malheureusement, l'arrivée de ce président a signé un renouveau de la déforestation brésilienne, qui touche d'ailleurs d'abord les Brésiliens eux-mêmes. Nous, par ricochet entre guillemets, mais d'abord les Brésiliens, en particulier les peuples autochtones. Donc ça, c'est vrai. À un moment donné, peut-être l'effet d'entraînement, effectivement, des autres pays peut jouer un peu quelque part.
On ne pensait pas que ça pouvait être réversible quand on a vu effectivement un certain nombre de pays sortir de l'accord de Paris, à commencer par les États-Unis. On s'aperçoit que les consensus sont extrêmement fragiles et que une chose est de s'entendre collectivement sur les paramètres d'un problème, une autre ensuite est de les mettre en œuvre politiquement. C'est le thème d'ailleurs de la première question au Standard. Bonjour Laurence.
Allô?
Oui, bonjour, bienvenue.
Bonjour, merci, bonjour à tous et à toutes. Pour protéger la biodiversité et pour protéger les animaux, il y a une chose simple à faire le 26 mai aux élections européennes, c'est de voter pour le parti animaliste qui propose dans son programme la diminution de 25% de la consommation de viande d'ici à 2025.
Ma chère Laurence de Paris, s'il vous plaît, laissez-moi juste dire un mot. Vous avez évidemment le droit absolu à vous exprimer, que ce soit de manière médiatique ou de manière démocratique dans le cadre d'une élection. Le principe, je voudrais juste le dire, le principe du Standard qui est ouvert aux auditeurs de France Inter, c'est qu'il postule un minimum de transparence. Nous vous donnons la parole en direct et c'est extrêmement important et tout à fait normal de le faire. Alors s'il vous plaît, ne mentez pas aux standardistes. Si vous voulez vous exprimer au nom du parti animaliste, dites-le et vous aurez la parole. Ne formulez pas une question fausse pour ensuite essayer de dire tout à fait autre chose et de faire un tract politique à l'antenne. Je pense qu'il est important que le respect de part et d'autre, d'une autre comme du vôtre, ce respect-là soit entendu et posé. C'est un fonctionnement démocratique et convivial. Et comme ça, on pourra avancer ensemble. Je vais donner du coup la parole à Stéphane. Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous êtes du parti des auditeurs de France Inter?
La croissance économique qui nous permet d'aller au resto, au restaurant deux fois par semaine, j'exagère peut-être, mais pas pour tous, ainsi de suite, un niveau de vie très très élevé. Donc une croissance économique et la préservation de la biodiversité, sachant qu'il va falloir un pays comme la France diviser par 4 nos émissions de CO2. Mmh. Voilà, ça c'est une question assez simple. Et en second lieu, je voudrais poser une question à Madame Autissier. Comment est-il possible de concilier une fois encore l'organisation des Jeux Olympiques à Paris et la préservation de la biodiversité, sachant que le WWF soutient la candidature des Jeux Olympiques à Paris?
Merci Stéphane pour cette double question. Isabelle Autissier, on commence par la deuxième et puis on parlera de la première juste après.
Alors, le WWF ne soutient pas le WWF a travaillé avec le comité de candidature pour essayer de faire en sorte que cette candidature soit utile d'un point de vue environnemental. C'est-à-dire que ça permette, comme c'est un événement quand même extrêmement important sur lequel il y a beaucoup d'argent mobilisé, beaucoup de gens mobilisés et des choses, que ça fasse changer les fondamentaux, par exemple, de la région parisienne, en imaginant qu'on arrive à faire augmenter, par exemple, la quantité de nourriture bio ou de nourriture sans viande sur les endroits où il y aura des compétitions, et que ça permette de mettre en place une filière avec des acteurs de l'agriculture de la région parisienne. C'est un exemple. Donc voilà, c'est ça que nous on a dit. La candidature c'est terminé. Nous on a terminé notre rôle. On a essayé d'amener ce qu'on pouvait amener.
Et sur la contradiction entre croissance, économie et écologie, protection de la biodiversité, Anne-Larry Gaudry.
Bon, alors, l'auditeur a parlé des questions de changement climatique et de biodiversité. Ce qu'on dit toujours, c'est qu'il faut vraiment considérer ces deux questions-là ensemble, qu'elles font partie vraiment d'une même problématique, et que si on laisse la nature reprendre ses droits, on va pouvoir résoudre les questions de changement climatique. Donc, ces deux questions sont vraiment très intimement liées. Et après, il est effectivement très important de commencer à considérer l'économie en fonction de son impact sur le climat.
La parole à Aurélien. Bonjour Aurélien.
Bonjour.
Bienvenue.
Je voulais juste apporter un petit témoignage. En fait, je suis salarié en association de protection de la nature, donc vraiment plus près du terrain. C'est-à-dire que là, je viens de finir un comptage d'oiseaux communs et je vais vers un inventaire de reptiles. Donc je suis directement sur le terrain. Et directement sur le terrain, en fait, on voit la nature... Pardon qu'on m'engage, mais se péter la gueule, vraiment au quotidien. À tel point que les salariés, donc personnes chargées d'études nature, on est un peu, sinon désespérés, du moins découragés de voir que les choses vraiment ne changent pas. Ne changent pas concrètement sur le terrain et qu'on n'attend rien en fait des élus, du moins des élus nationaux. Ça serait injuste de dire qu'il n'y ait pas des élus locaux en communauté de communes, en commune, qui ne s'engagent pas. Mais clairement, on n'a aucune attente à venir des élus nationaux, à tel point que certains salariés qui réalisent des études aujourd'hui quittent ce genre de travail pour avoir une prise plus directe sur le terrain en devenant paysan ou quelque chose.
Aurélien, permettez-moi, aucune attente, avez-vous dit, mais avez-vous au moins de l'aide?
Alors, financièrement, les associations de protection de la nature, dont celles où je travaille, ont très peu de financements qui viennent de l'État directement. Les financements publics sont loin d'être majoritaires dans nos budgets. On a une multitude de partenaires, mais on travaille avec les comités de communes, les comités d'agglomération. Mais de l'État directement, non, on n'a pas d'attente.
Merci Aurélien, merci beaucoup. Voilà, on arrive aussi dans un des cœurs du problème. On peut être d'accord sur le constat, on peut vouloir se battre. Ensuite, quel écho trouvent ces combats et quel soutien politique reçoivent-ils? Isabelle Autissier, sur le témoignage d'Aurélien.
Par exemple, moi j'ai été un peu peinée que le mot nature ou biodiversité n'ait pas du tout été prononcé par le président de la République dans sa dernière allocution, alors que la France accueillait justement l'IPBES et que la France est très allante au niveau international sur ces sujets-là. Donc, je crois que il faudrait qu'on ait concrètement.
Elle est allante verbalement ou elle est allante politiquement?
Non, je pense qu'elle est allante.
Sans esprit de polémique,
oui,
dites-nous.
Oui, sans esprit de polémique, je pense qu'elle est assez allante politiquement envers les autres pays. Maintenant, c'est vrai que à l'intérieur de nos frontières, on peine un petit peu à voir des résultats. J'ai un petit dada, vous savez, qui s'appelle la Montagne d'Or, par exemple, en Guyane. C'est des travaux pratiques. Voilà, on va voir dans un mois, le ministre de Rugy y va. On va voir si on continue à accepter un développement du XXe siècle où on massacre la nature, où on la met à risque et qui est refusé par les populations
locales.
Mais
est-ce que la biodiversité ici est protégée à la hauteur de la menace, ici en France ?
Non, certainement pas. Certainement pas. On voit encore des zones humides disparaître. On voit encore les pesticides. Aujourd'hui, la question n'est absolument pas réglée. On a eu des grandes promesses et puis après, petit à petit, ça a commencé à se détricoter. Et puis maintenant, on nous dit que oui, bon, peut-être, on verra. Je voudrais rappeler qu'en 10 ans, on a mis 500 millions d'euros pour, soi-disant, diviser par deux les pesticides et qu'en fait, on les a augmentés de 10%. Donc, il y a quand même un petit problème. Donc là, il faut être beaucoup, beaucoup plus efficace.
Sur la France, Anne-Larry Gaudry.
Oui. Alors cet après-midi, nous sommes reçus par le président de la République, Emmanuel Macron, en fin d'après-midi, donc pour pouvoir lui présenter les conclusions du rapport. Et puis on va discuter aussi de ce qui pourrait être fait, en particulier au niveau des politiques agricoles. Mais pour et puis il y a le G7 où j'étais hier, hein, le G7 environnement, où nous avons également présenté les conclusions du rapport, qui va pour la première fois avoir mettre l'accent sur la biodiversité avec une charte cet après-midi qui va sortir sur la biodiversité. Donc il y a quand même, j'ai l'impression, une prise de conscience qui est en train, finalement, après toutes ces années, de naître. J'ai vraiment ce sentiment. Mais après, pour redonner un peu de l'espoir peut-être à notre auditeur Aurélien, qu'on sent vraiment très déprimé, et je le comprends, parce que le rapport montre qu'un tiers des espèces d'oiseaux en milieu agricole sont en train de disparaître. Mais en même temps, on est tous ensemble dans ce combat, donc... on essaie vraiment tous ensemble de changer la conversation, vraiment de l'amener à un niveau très élevé pour que, comme disaient hier les ministres du G7, on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas.
Est-ce que la conversation est vraiment en train de changer, Isabelle Autissier? Il y a 10 jours, dans le 25 avril, donc dans la locution du président de la République, il y a eu 2 annonces pour l'écologie. Il y a eu cette convention citoyenne de 150 personnes tirées au sort, et puis ce conseil de défense écologique qui réunira les ministres concernés pour faire des choix stratégiques. Qu'est-ce que vous en attendez? Est-ce que ça va dans le bon sens? Est-ce que ça peut être utile?
Écoutez, j'en sais rien. Pour l'instant, j'attends de voir un peu. Pourquoi pas demander l'avis des citoyens? Ils auront peut-être des idées géniales qu'on n'a pas eues. Mais franchement, il y a déjà beaucoup, beaucoup de choses qui sont sur la table. Donc, on aurait évidemment attendu d'être plus dans le concret et dans les décisions. Donc, on a l'impression qu'on repousse encore un petit peu ces décisions, qu'on refait d'autres conseils, d'autres... Voilà, il y a déjà beaucoup d'instances, on discute tout ça. Donc voilà, moi j'aurais aimé des annonces plus claires.
Il y a Antoine, justement, par l'application France Inter, qui vous interroge sur l'une de ces instances. Que pensent vos invités de la révélation par Mediapart hier du fait que le gouvernement réduit la capacité de protection des espèces du Conseil National de Protection de la Nature, et cela pour fluidifier les travaux d'aménagement? Qui veut répondre, Isabelle Autissier?
Bah écoutez,
faut lire ce long article signé Jade Lingard.
Oui, c'est un conseil qui en fait rend un avis sur les grands aménagements, et en particulier si ces aménagements touchent des espèces sensibles ou des espèces protégées. Alors, on nous dit qu'il y aurait un décret en préparation qui redescendrait à un niveau plus régional, avec des conseils qui seraient, d'après ce que je vois, avec des gens qui seraient nommés à la fois par les préfectures et les collectivités. Donc, bon, c'est un peu dommage parce qu'on a aujourd'hui un conseil qui marche, qui a rendu des avis qui parfois étaient peut-être pas très agréables pour les aménageurs, mais qui sont ce qu'ils sont, et c'est un conseil qui marche bien. Donc, j'ai pas l'impression que ça empêche une fluidité de la décision.
Une dernière question. Vous savez que les élections européennes se profilent, ici comme ailleurs dans le monde. On parlait de Jair Bolsonaro, on parlait également de Donald Trump. Les populismes, mettons ça entre guillemets, on le vend en poupe. Dites-nous, quelle est votre analyse politique du moment dans lequel on se trouve? Pourquoi l'écologie politique est-elle si faible sur le plan électoral, alors qu'on pourrait imaginer le contraire, attendre peut-être le contraire, considérant le contexte dans lequel on se trouve? Isabelle Autissier.
Je ne sais pas si c'est à moi d'avoir une analyse politique.
Non, mais
moi,
j'imagine
je suis à la tête d'une ONG.
Que le paradoxe vous saute aux yeux parfois, non?
Oui, alors on nous dit aussi d'un autre côté que maintenant tous les partis se saisissent plus ou moins de cette question et qu'ils ont tous un peu verdi leur enseigne pour. Parce qu'on voit quand même que c'est une réelle préoccupation des gens. Les gens, ils vous parlent de climat, ils vous parlent de la nature devant chez eux, du fait qu'ils ne voient plus d'oiseaux, du fait que voilà, les insectes, ils voient bien que ça disparaît, il n'y a plus de papillons, il n'y a plus de libellules. Voilà. Donc, Donc ça c'est une vraie préoccupation des gens. Donc tout le monde s'en saisit un peu, mais c'est vrai que globalement, oui, les spécialistes entre guillemets n'ont pas l'air d'en profiter.
Anne Larry-Gaudry sur cette question-là.
Bon, c'est vrai que la nature est vraiment.
Allez-y.
D'accord. Ce qu'on essaie vraiment de faire, c'est de faire en sorte que on conçoive une fois de plus la biodiversité comme vraiment un thème absolument essentiel. Et j'ai vraiment l'impression que les futures générations, en particulier les enfants dont on a vraiment spolié les options futures, sont vraiment eux en train de se saisir de ce sujet. On assiste à vraiment beaucoup de petits projets qui sont en train de naître partout, qui montrent vraiment l'intérêt important des générations futures pour ce sujet.
Merci à toutes les deux en tout cas. Merci beaucoup d'être venues ce matin sur France Inter. Anne Larry-Gaudry, secrétaire exécutive de l'IPBES, dont le rapport donc sera connu à 13h aujourd'hui. Et Isabelle Autissier, la toute nouvelle présidente du WWF France. Merci à toutes les deux, 8h30.